de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 3 novembre 1994.
Dans la mesure où on se donne, on est capable de recevoir. Avoir un corps de chair, comme dit l'écriture, c'est justement être capable de se donner. Un corps de pierre, c'est incapable de se donner. Et quand on a un corps de pierre, on est incapable de recevoir l'autre. Donc, il y a un don personnel. Et ceci est distinct de la connaissance. Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut le connaître. Il faut au moins la connaissance que cette personne existe et qu'elle est bonne et qu'elle est capable de m'aimer. C'est le problème de la connaissance nécessaire à tout amour et à tout amour d'amitié. La connaissance, à la différence de la volonté, c'est que la connaissance implique que celui que je connais, je le possède au-dedans de moi-même. Je le prends en moi. Mais la connaissance est d'abord d'introduire in douce leggere, d'introduire en moi celui que je connais. Par là, je le connais d'intérieur. Et la connaissance, ensuite, adhère à l'autre. Autrement dit, intelligence et volonté sont complémentaires et ont deux attitudes tout à fait différentes. Dans l'amour, dans l'appétit spirituel, je me porte vers l'autre. Et en le portant vers l'autre, je peux l'accueillir. Dans l'intelligence, je l'accueille et je peux me porter vers lui. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant à creuser. Il faut le faire, ça. Vous essayez de comprendre ce double mouvement, tout à fait différent du point de vue de l'intelligence et du point de vue de l'appétit spirituel. J'aime bien de garder l'expression de Tintama. Appétit spirituel. Parce que le mot volonté en français, la boulésis grecque, le mot volonté en français a pris depuis Descartes une signification tout autre. Et donc on doit redécouvrir l'appétit spirituel dans ce qu'il a de plus profond et ne pas se laisser contaminer par Descartes. Pour Descartes, la volonté, c'est avant tout vouloir faire du bien. C'est vouloir réaliser quelque chose. C'est de l'ordre de l'efficacité. Et l'affectivité demeure au niveau passionnel. Oui, c'est très très grave cette erreur qu'avait Descartes. Parce que ça a eu toute une influence sur le psychisme français. Et le psychisme français a quelque chose de très particulier. C'est que on fait cette distinction entre les hommes de cœur et les hommes volontaires. On dira facilement, cet homme, ce religieux, il est très très bon. Il a une bonté extraordinaire. C'est un homme de cœur. Mais hélas, il manque de volonté. Il n'arrive pas à réaliser quelque chose dans sa vie. On fait très facilement cette distinction depuis Descartes, depuis Pascal. Et alors Descartes et Pascal, là, tous les deux nous enfoncent dans le fait que l'affectivité, elle est sensible. Elle est imaginaire. Il n'y a pas d'affectivité spirituelle pour Descartes. C'est un drôle de bonhomme. Il n'y a pas d'affectivité spirituelle. Il n'y a qu'une efficacité, la volonté. Vous voyez, c'est très stoïcien. La boulésis stoïcienne, c'est l'efficacité. C'est la volonté d'arriver. Le stoïcisme, 3e siècle avant Jésus-Christ, après Aristote, physiciens, parce que ordinairement, les philologues disent qu'Aristote n'a pas découvert la volonté. La poésie. Et la poésie n'a été découverte que par les stoïciens. Alors, c'est intéressant de savoir ça au point de vue historique. C'est pas vrai. Hein. Celui qui étudie Aristote sait que l'acte volontaire, c'est l'acte humain. Et c'est un amour d'amitié. Un amour d'amitié, il est volontaire et libre. Et c'est la poésie. Elle est présente dans Aristote. Et Aristote ne l'a pas traité du tout de la même manière que les stoïciens. Il a traité la volonté au niveau spirituel comme ce qui ne structurait pas la personne humaine. C'était l'intelligence et la vérité. Et la volonté suit. Mais quand Aristote dit ça, il faut bien comprendre qu'il y a pour Aristote une véritable faculté particulière, une véritable puissance, dunamis, particulière, qui exprime l'appétit spirituel. Cet appétit spirituel, c'est ce qu'on dira ensuite la volonté, à un objet propre, qui montre qu'il y a vraiment une puissance propre. Attiré par le bien spirituel. On est attiré par le bien. Ce n'est pas la connaissance qu'on a du bien qui détermine mon appétit spirituel, mais c'est le bien lui-même. Ça, c'est capital à comprendre. Je répète pour que vous compreniez bien, parce que ça, c'est capital. Parce que depuis, c'est ça qui avait l'erreur de Descartes. Donc, il ne faut pas seulement dire Descartes s'est trompé, il faut voir pourquoi il s'est trompé et comment il s'est trompé. Parce qu'autrement, on tombe tout sur le panneau. Et la philosophie qui a suivi Descartes est tombée dans le panneau. Alors ça a été facile, vous voyez, pour Freud. Parce que Freud n'a pas du tout remonté à la philosophie de Thomas d'Aquin et la philosophie d'Aristote. Il l'ignore complètement. Et il fait la philosophie du malade. Et la vision de Freud sur l'homme, c'est une vision du malade. Bon, je sais bien qu'on est tous malades, quand même plus ou moins. Et si Freud vivait, on n'irait pas le consulter pour savoir ce que c'est que l'homme. Parce qu'on dirait que... Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bon, il fréquentait honorablement les pauvres malades de Sainte-Anne. À Paris, il a été très grand là, mais l'erreur qu'il a fait, c'est à partir des malades, de faire une philosophie de l'homme. Le déclin de la civilisation. Alors on voit très bien. Parce que justement, qu'est-ce qui est premièrement atteint chez le malade? Qu'est-ce qui est radicalement atteint chez tous ceux qui sont nés dans le péché? C'est la volonté. La foi rectifie tout cela. La foi nous montre cela. Notre intelligence n'est pas atteinte par le péché, mais notre appétit spirituel est atteint. Alors c'est pas étonnant, vous voyez, que les philosophes ont une peine énorme de redécouvrir l'appétit naturel qui existe. Il n'est pas supprimé. Mais il y a un poids terriblement fort du passionnel. On est cette passionnel. Oui. On aime d'écouter la voix du vent. Hein? Et on est pris par ça. Et notre intelligence a de la peine de rester en attention devant la voix du vent. Et ça, c'est les conséquences du péché originel. Qui sont très fortes. C'est évident. C'est pour ça que les gens aiment bien avoir un fond sonore. Conséquence du péché originel. Parce que vous n'êtes plus attentif à la personne humaine, vous êtes attentif au fond sonore. C'est très curieux tout ça, mais c'est intéressant de le comprendre dans la philosophie de la volonté. beaucoup plus difficile de redécouvrir la bite spirituelle dans son caractère naturel à cause du poids terrible des passions et de l'imaginaire. Les passions s'allient toujours à l'imaginaire et font croire que c'est ce poids de l'imaginaire qui est au fond normal pour nous. Ça nous enveloppe. Et en éthique chrétienne, on sait que la stratégie du démon, c'est de nous envelopper de l'imaginaire. Et donc, d'éveiller en nous toujours le poids passionnel. Parce que l'imaginaire éveille la passion. Il faut arriver à dépasser cela pour retrouver l'appétit naturel de la volonté qui a été complètement obnubilé depuis Descartes et avant Descartes avec notre cher ami qu'on connaît bien qui est théologien. Il a fait la même chose. D'une autre façon. Parce qu'il était franciscain et donc il y avait quand même un peu d'amour qui était réservé en lui. Grâce à cela, Saint François l'a empêché de tomber au degré de Descartes, au point de vue appétit, au point de vue intellectuel, et il a déraillé. Alors très vite, à partir de là, il n'y avait plus l'intelligence pour rappeler la force de l'appétit naturel. Alors nous devons redécouvrir dans notre monde d'aujourd'hui ce qu'est cet appétit spirituel, qui est une véritable puissance, qui est même la puissance en nous, je ne dis pas la plus noble, celle-là c'est l'intelligence. Mais la puissance en nous qui vient immédiatement après l'intelligence et donc qui participe de la noblesse de l'intelligence. Aimer spirituellement quelqu'un, c'est une grande noblesse. Qu'est-ce qui passe devant? C'est la noblesse de la recherche de la vérité. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Ça, c'est la noblesse de l'intelligence, de rechercher la vérité. Et ça passe avant la noblesse si grande de l'amour d'amitié. Parce que si votre ami déraille, vous devez aimer la vérité plus. Et en aimant la vérité, redresse votre ami pour maintenir l'amitié avec lui. Ce sont les deux grandes noblesses du cœur de l'homme, ça. L'amour d'amitié et la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, l'amour de la vérité, passe avant. Donc il faut bien comprendre ça. Au point de vue philosophie du vivant, c'est très très important. Et c'est capital. Mais voyez, si je ramène l'intelligence à la raison, cet appétit de la vérité n'existe plus. C'est le cogito. Et le cogito, c'est pas notre plus grande noblesse. Je cogite. Quand on ne recherche plus la vérité, on recherche la sincérité. C'est-à-dire le cogito. C'est moi qui m'intéresse. C'est moi. C'est moi qui le fond. Et s'il n'y a plus l'appétit naturel, il y aura tout simplement cette volonté d'efficacité. Et ce n'est pas la plus grande noblesse de l'homme. Vous voyez, ce qui est très curieux, c'est que la corruption de l'intelligence comme intelligence nous fait retomber dans le raisonnement. Et la corruption de l'appétit spirituel nous fait tomber dans l'efficacité. Et ça, il faut bien comprendre ça. Parce qu'il faut lutter pour redécouvrir l'intelligence dans sa noblesse, intus laetiae, et une faculté, une puissance de contemplation. recherche de la vérité. C'est ça l'intelligence. Il faut redécouvrir l'appétit spirituel qui se porte sur la personne en tant qu'elle est bonne, en tant qu'elle est capable de me finaliser, c'est-à-dire en tant qu'elle est capable d'être pour moi un absolu. La bonté de la personne. Mais pour que la personne soit bonne, il faut qu'elle-même soit finalisée. Il faut qu'elle-même, et qu'elle-même vraiment, dans la vérité. Alors là, nous découvrons ce qu'est cet appétit spirituel. Alors on va essayer de comprendre ce qu'est cet appétit spirituel. La poule est fixe dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental, de tout à fait vrai. Vous voyez, c'est ce qui a été le plus abîmé en philosophie. Descartes a joué un rôle terrible là-dessus. D'opposer les hommes de cœur aux hommes efficaces. Parce qu'alors il semblerait que pour être efficace, il ne faut plus aimer. Quand le commerce, quand l'économie devient la chose primordiale de l'homme, il y a quelque chose de vrai. Mais il faut voir l'erreur fondamentale, c'est que l'économie n'est pas ce qu'il y a de principal pour l'homme. C'est peut-être ce qui nous talonne le plus. C'est très vrai. Le chômage est une chose terrible pour l'homme. Mais ce n'est pas le mal principal de l'humanité. Le mal principal de l'humanité, c'est l'orgueil. C'est que l'homme n'aime plus. Ça, c'est le mal capital. Comprenons ce qu'est l'appétit spirituel qui fait qu'il y a en nous une puissance spirituelle capable de se laisser attirer, transformer par la personne humaine en tant qu'elle est bonne. En tant qu'il y a en elle des perfections, des qualités, et surtout en tant qu'il y a en elle la capacité de m'aimer moi-même dans ce qu'il y a de plus personnel en moi. Au fond, la personne humaine n'est bonne que quand elle m'aime. C'est très curieux ça, mais c'est la condition sine qua non pour que sa bonté me soit dévoilée. C'est pour que sa bonté me soit dévoilée. Alors, à ce moment-là, je peux l'aimer. Et je suis saisi par son attraction. Elle est bonne. Le propre du bien, c'est d'attirer à soi. Le propre du bien, c'est d'être une force attractive, une puissance attractive, qui m'attire et qui me permet d'aller vers celui que j'aime, l'extase, sortir de moi. M'oublier, c'est très difficile de s'oublier. L'intelligence ne me fait pas m'oublier, mais l'amour spirituel fait que je m'oublie. Faut jamais oublier ça. Seul l'amour permet de m'oublier, c'est-à-dire d'avoir un centre d'attraction plus fort que le centre d'attraction de l'amour que j'ai pour moi. Et donc, il faut vais dire. Mais profondément, pas du tout, de façon purement sensible, qui m'attire profondément. Et pourquoi d'autres pas du tout? Alors, les philosophes ont inventé à ce moment-là des tas d'histoires, d'atomes crochus. Mais vous voyez, restant le sensible. Il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux, c'est qu'elles sont bonnes. Pour moi. C'est qu'elles s'intéressent à moi. C'est qu'elles sont attentives à moi. Mais spirituellement. Alors, elles touchent quelque chose de très profond en moi. Cette capacité que j'ai d'aimer. Il y a un premier amour spirituel que je peux accepter ou refuser. Et quand cet amour est réciproque, je l'accepte. C'est le propre de l'amour réciproque, c'est qu'il y a une acceptation. On se choisit comme ami. Et là, c'est très grand, cette acceptation. Alors, évidemment, il y a des problèmes qui peuvent se poser. Jusqu'où cet amour, ce don peut-il aller? Si on est engagé dans la vie religieuse, attention. Si on est engagé dans la vie du mariage, attention. Parce qu'on sait. Alors ça, c'est la seconde considération de l'amour. C'est que l'amour regarde la personne. Donc, elle engage la personne tout entière. Il n'y a pas d'abstraction dans l'amour. Alors qu'il y a une abstraction dans la connaissance. Il y a une abstraction dans la connaissance. L'universel existe au niveau de la connaissance. Ça n'existe pas au niveau de l'amour. Au niveau volontaire. Molière a très bien dit ça. Quand il aime, il dit, l'amour du genre humain ne m'intéresse pas. Parce que c'est un amour universel. C'est la vieille tante qui dit, moi j'aime tout le monde. On a envie de dire, ça prouve que vous n'avez personne. La vieille tante qui ne s'est pas mariée. Vous savez, il y a toujours ça dans les familles. Ça. Alors, elle est très dévouée, elle est merveilleusement dévouée. Mais dévouée, l'amour efficace. Elle s'est mariée avec Descartes. Alors, elle est pour les œuvres, pour les œuvres. Elle se donne entièrement aux œuvres, de dévouement extraordinaire. Mais il n'y a pas d'amour au sens rigoureux. Il n'y a pas d'amour, c'est-à-dire il n'y a pas un don de la personne. L'amour regarde la personne tout entière. C'est pour ça que l'amour spirituel est toujours accompagné d'un amour sensible. Toujours. Et d'un amour imaginatif, un peu romantique, au clair de lune. Toujours un peu. Et que ça touche même l'aspect instinctif. L'appétit naturel, instinctif, toujours. Alors, attention, ce que je dis là, hein. Je dis que l'amour regarde la personne. C'est vrai, pas d'abstraction. Alors, un amour spirituel très intense fait qu'il assume l'amour sensible, imaginatif, et qu'il est libre à l'égard de l'amour sexuel, de l'appétit sexuel, disons pas l'amour, l'appétit sexuel, l'appétit instinctif. On est libre, parce qu'on est au-dessus. Et ça, c'est la force de l'amour spirituel. Mais quand l'amour spirituel n'est pas assez fort, quand l'appétit spirituel n'est pas assez fort, qu'il n'aime pas assez la personne de l'autre, et qu'il est très ému, il y a toute une secousse passionnelle. L'amour passionnel est toujours un amour extrêmement sensible parce qu'il est passionnel et donc éveillé avec un amour passionné, avec un amour spirituel. Tu peux s'éveiller de cette manière-là. L'amour spirituel n'est pas captatif, puisqu'il implique l'extase. Mais s'il éveille un amour captatif, alors si cet amour spirituel n'est pas assez fort, l'amour captatif, qui est le benjamin, va s'éveiller avec force et petit à petit va l'emporter. C'est tout, tous les romans sont comme ça. Tous, toujours. Au début, c'est merveilleux. J'ai découvert la personne la plus extraordinaire qui soit. Attention, attention, à la page suivante. C'est l'amour captatif alors qu'il emporte. Et l'amour spirituel s'éteint parce que nous sommes limités dans notre capital de vie. On est limité. C'est pensé. Alors si l'amour spirituel augmente, alors cet amour spirituel peut arriver à assumer. Mais on est tous faits comme ça. Et on sait très bien que si on ne fait pas grande attention à cet amour passionnel, il peut arriver à tout prendre. Et on peut devenir esclave d'un amour passionnel, imaginatif. Alors, il ne faut pas. Si on veut rester des hommes, surtout consacrés à Dieu, mais l'homme chrétien tout court, et l'homme humain tout court, je n'ai jamais le droit d'être esclave de ma passion. Le jour où je suis esclave de ma passion, je deviens plus terrible qu'un animal féroce. Et j'en suis conscient. Parce que l'homme a un capital d'aimer qui est plus grand que celui des animaux féroces. Il a un capital d'amour spirituel qui peut se renverser et être au service de l'amour sensible et passionnel, parce qu'il n'a pas le droit. Il faut que l'amour passionnel soit éduqué, devienne relatif à un amour spirituel. De même l'amour instinctif, l'amour de l'instinct sexuel, il faut qu'il soit éduqué et assumé par l'amour spirituel. Oui, c'est très très important de comprendre ce que dit Thomas d'Aquin quand il dit que la volonté, c'est une puissance du sujet, disons de la personne. Et c'est vrai, c'est à cause de ça que certains refusent le point de vue de la puissance volontaire, alors que non, il y a vraiment une faculté particulière qui est la volonté. Mais c'est une faculté très particulière parce qu'elle s'enracine dans l'aspect spirituel qui est en moi, mais elle a des ramifications sur tout le reste. Et elle prend tout le reste. Quand j'aime, c'est ma personne qui aime. Je ne dis pas à quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, je t'aime cérébralement. Ça me fait beaucoup de plaisir de penser à toi quand je ne pense à rien. Alors, à ce moment-là, on comprend, et c'est ce qu'on appelle en français un amour platonique, qui n'est pas un véritable amour. On aime des idées, mais c'est pas aimer vraiment. On aime une personne. Et la personne, on l'aime comme personne, c'est-à-dire l'esprit lié au corps, lié à sa sensibilité, lié à son imagination, lié à tout ce qu'elle est. C'est propre de l'amour, ça. Et c'est le caractère particulier de savoir ordonner l'aspect passionnel à l'amour spirituel et à l'amour divin. Parce que si on ne sait pas l'ordonner, on est sûr, alors que tôt ou tard, l'amour passionnel l'emportera avec l'imagination. Et alors, à ce moment-là, nous empêchera de voir clair. Il s'agit de voir clair, de rester toujours celui qui maîtrise la passion. Mais maîtriser la passion, ce n'est pas la supprimer. La passion en elle-même est bonne si elle n'étouffe pas l'appétit spirituel. Autrement, on deviendrait stoïcien. Le stoïcien supprime la passion parce que toute passion est mauvaise. Elle est radicalement mauvaise. Alors, on fait l'ange. Et qui fait l'ange fait la bête. On comprend très bien ça. Et ça, c'est très juste. Si vous supprimez ce domaine passionnel et sensible, vous risquez toujours d'exasperber l'amour spirituel qui n'a plus sa première incarnation. Et qui, par le fait même, fera une séparation de l'amour spirituel. Non plus, il faut faire une distinction, mais pas de séparation. Une séparation entre l'amour spirituel et l'instinct. Et on dira, l'instinct, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. L'instinct doit être dominé par le point de vue de la passion, qui elle-même est dominée par le point de vue de la prudence. Parce que vous n'avez pas de pouvoir direct sur la passion, sur l'instinct, sur l'appétit naturel, sur l'appétit radical qui est en nous. Mais vous l'avez un pouvoir par le point de vue passionnel. Alors, je reviens, l'appétit spirituel regarde le bien personnel de mon ami, de la personne humaine. Et c'est ce bien qui m'attire. Et parce que ce bien m'attire, je réponds à ce bien. Et il y a un acte personnel, volontaire, qui est d'accepter cette attraction et d'y répondre, et donc d'aimer. Vous voyez ? J'aime quelqu'un. Je l'aime non pas parce qu'il m'aime, je l'aime parce qu'il est mon bien et qu'il est une personne. Mais je reconnais que parce qu'il m'aime, j'ai été éveillé à ça. L'amour que cette personne a pour moi est comme la foi qui permet à ma réponse de prendre toute sa signification. C'est une chose qu'il faut bien déterminer cela et bien voir. Et bien comprendre comment